utilise les temps de conjugaison que certains d'entre vous, vous et moi, on aura difficile à utiliser. Il aime les passés simples. Quand nous fûmes, nous arrivâmes et nous rencontrâmes. Les gens de temps de conjugaison, si on applique ça trop à tes côtés, tu auras besoin d'un interprète. Ça veut dire quoi? Il est fort, ce jeune homme. Mais je l'ai connu quand il avait 5, 6 ans. Je n'ai jamais oublié. Il n'aime jamais que je lui rappelle ça. Quand je rappelle ça, il dit, celui qui rappelle les fautes divise les amis. Il avait difficile à dire araignée. Yannick, il s'appelait. Quand on disait araignée, il te regarde dans les yeux, il dit agnéré. Tu lui dis araignée, il dit agnéré. Et bizarre, quand on coupait en syllabes, il réussissait. Quand tu lui dis ah, il dit ah. Tu lui dis ré, il dit ré. Nye. Mais en syllabes, tu lui dis maintenant araignée, il dit calmement agnéré. Mais 25 ans après, la même personne. Aide-moi à dire à ton voisin, laisse-moi le temps. Simplement le temps a fait que la personne qui disait agnéré aujourd'hui est devenue très brillant. Combien de fois on nous juge dans une phase de notre progression, alors que si on nous laissait le temps, ils verront le meilleur de nous. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'as pas encore vu la meilleure version de moi. Laisse-moi progresser. Pasteur Eli, tu n'as pas encore entendu mes meilleures prédications. Laisse-moi encore 10 ans. Laisse-moi encore 15 ans. Quatrième signification que la loi du processus veut dire, c'est qu'à chaque étape qui nous amène vers la forme la plus élaborée, il y a deux phénomènes qui se passent. Premièrement, il y a des choses que l'on perd, et deuxièmement, il y a des choses que l'on gagne. Dans les processus, il y a toujours ce qui se passe. D'un côté, l'on perd certaines choses et de l'autre côté, l'on gagne. Souvent, soit nous-mêmes ou les autres veulent que nous devenions tout, tout de suite. Mais nous ne devenons jamais tout, tout de suite. Laisse-moi le temps et tu verras ce que je peux faire. Dans Marc au chapitre 4, au verset 28, qu'est-ce que j'aime ce passage? Et là, c'est Jésus qui enseigne et il montre dedans la loi du processus. Il dit, la terre produit d'elle-même. Et j'aime l'adverbe qu'il utilise. La terre produit d'elle-même, il dit d'abord. Aidez-moi à dire d'abord. D'abord. Il dit d'abord l'herbe. Et puis il dit, puis l'épi. Et puis il ajoute encore, puis les grains tout formés dans l'épi. C'est la même chose, mais tu lui laisses le temps, elle se transforme. Je suis herbe, mais attends. Laisse-moi le temps, tu verras l'herbe se transformer en épi. Je deviens épi, mais je ne suis pas tout. Laisse-moi simplement le temps et tu verras l'épi devenir un grain tout formé dans l'épi. Raconte l'histoire d'un papillon. Il semble qu'il était originaire de Kinshasa. Ce papillon, il était en train de voler et puis il a vu une chenille qui roulait par terre. Il a un peu diminué son altitude, il est descendu vers la chenille. Il a dit à la chenille, à Lingala, là, il n'a pas eu de pumba mukomusus. Je te jure, tu vas finir par voler. C'est pour ça que je dis, les papillons, il était quinoa. Et la chenille avait difficile à croire. Je n'ai pas des ailes. Qu'est-ce que tu me dis? Moi, j'étais comme toi, j'étais dit, tu vas finir par voler. Il dit, c'est juste une question de temps. Moi aussi, j'ai roulé par terre. Un jour, j'ai eu des démangeaisons. Et j'ai su que tu ne vois pas des ailes, mais elles sont cachées en toi. Laisse-moi le temps, tu verras ce que Dieu va faire avec moi. Je suis de l'herbe, mais je suis dans un processus. Si tu me laisses le temps, l'herbe va devenir épi. Et si tu me laisses encore le temps, l'épi va devenir des grains tout formés. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Ne laisse pas les gens t'abaisser. Dans leur rendez-vous, dites, attendez seulement. Vous verrez ce que le temps va faire de moi. Tout processus a des étapes, c'est-à-dire des stades qui se distinguent par leur visage et par leur contenu. Le passage que nous avons lu au départ de Actes 9 nous montre le point de départ du processus. qui va amener à l'existence du grand apôtre Paul. Le grand apôtre Paul qui va finir sa course avec un palmarès fabuleux. Le grand homme de Dieu qui va prêcher devant le roi et devant les grands, qui va écrire des épîtres. Le grand apôtre qui un jour il arrive dans une contrée et Actes 17, 6, on l'appelle ces gens qui ont bouleversé le monde. Ces gens qui ont changé le monde. Il n'est pas né changeur de monde. Il a commencé timidement. Et comme je te dis, acte 9 nous montre les points de départ. Acte 9, 4 à 6 nous parle du premier point dans les processus. Sa rencontre avec le Seigneur et sa conversion miraculeuse. Un païen avec P majuscule. Un adversaire du Seigneur et de son œuvre est rencontré par le Christ. Mais déjà à cet instant, tous les dépôts du grand apôtre est dedans. Mais il faut simplement laisser le temps. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-moi le temps et tu verras. Acte 9, verset 8 à 9, nous parle aussi du premier pas qu'il pose. 3 jours d'aveuglement. Quand il est tombé de son cheval, ses yeux sont fermés. Ce que j'aime, c'est j'aime comment Dieu nous forme pour ce vers quoi il nous amène. Et quand Dieu permet que le grand arrogant, rempli de lui-même, Saul de Tarse, sûr de lui, vous savez, quand Dieu vous élevez très haut, quelquefois il vous abaisse très bas. Quand Dieu veut vous faire asseoir sur le trône d'Égypte, quelquefois il vous amène d'abord dans une citerne profonde. J'aimerais dire à quelqu'un, le chemin qui amène sur un trône élevé passe quelquefois par une citerne. Mais j'aimerais dire aussi, le fond d'une citerne ne tue pas les songes que Dieu t'a donné. Les gens peuvent te placer dans une citerne, mais les songes de Dieu restent et restera. Au grand maximum, les hommes peuvent retarder les plans de Dieu, mais ils ne peuvent pas les tuer. Car les rêves que Dieu donne lui-même les protègent. Et le grand apôtre Paul devient aveugle. Le but de Dieu, c'est les briser pour les rendre humbles. L'arrogant, le sûr de lui-même, durant 3 jours, il est dépendant de quelqu'un d'autre. Je vais aller au petit coin, mais est-ce que tu peux m'amener? J'aime les instants où Dieu seul reste fort. Le fort devient faible. Paul ne voit plus. C'est celui qui est allé demander les lettres. Et quand Dieu voit cela, Dieu dit, waouh! Ça, c'est le premier pas vers la formation. Avant que la grandeur ne sorte, il doit devenir tout petit. Processus enclenché par Dieu. Acte 9, 10 à 16, nous parle de la certification de son appel. Dieu envoie Ananias. Si Ananias, il hésite, il semble comme si Ananias, il veut dire à Dieu, toi, tu habites au ciel. Tu ne connais pas les types vers qui tu m'envoies. Quand Dieu lui dit, va! Il est en train de prier, il est à tel... Il dit, tu ne connais pas cet homme, toi tu es au ciel. Il vient arrêter les jambes. Seigneur, Dieu dit, j'ai fait quelque chose, j'aime quand Dieu travaille. J'ai pu imaginer Ananias venant en tremblant, il s'est dit, est-ce que je sortirai vivant parce que je connais cet homme? Ananias, tu ne sais pas que Dieu a travaillé. J'aime quand Dieu travaille. On en discutait ce matin avec mon frère, caché une œuvre que Dieu a faite avec nous dans les quartiers où nous avons grandi. J'avais commencé à servir Dieu. Je n'ai jamais oublié, il y a un jeune homme qui est aujourd'hui pasteur en Tanzanie. Il était en Tanzanie, maintenant il est à Bukavu, il s'appelait Bahati. Et nous avons commencé ce mouvement qui s'appelait Jeunesse engagée pour Christ. Et Dieu nous a utilisés dans ces quartiers comme jamais. Alors je n'ai jamais oublié, on s'est retrouvé un jour dans une réunion. Dans les quartiers où nous étions en train de prêcher, et j'ai vu ce jeune homme venir avec une grosse culotte que les Kinois appellent Mogondo. Grosse comme ça. Et il portait une petite ceinture où la partie supérieure de la culotte était rebroussée comme ça. Et il marchait d'une certaine manière en entrant. Et quand moi je prêchais, lui il était au coin, penché comme ça. Et quand je prêchais, je le voyais déranger les jeunes filles. Et moi je me disais que j'arrête la prédication. Que les restes de mon judo fassent le travail. Et je prêche et je prêche. Je termine, je lance l'appel. Qui veut le recevoir, Jésus? Qui je le vois en train de venir. sincèrement converti, mais il y avait des choses qui n'étaient pas encore parties. Et quand il venait comme ça, je me disais, en plus, il joue avec les choses de Dieu. Et il vient, il se tient là. J'ai dit à un ami, que je le cogne ou quoi? L'ami me dit, mais apparemment, il est en train de pleurer. Je regarde, il y avait des larmes. J'ai dit, en plus, il fait du théâtre. Et pourtant, c'était le premier pas de la vraie conversion. Vous savez, tout ne part pas tout de suite. J'ai gagné encore quelqu'un d'autre au Seigneur. Il habitait les quartiers chez nous qu'on appelle Cité Baudouin. Waouh! On les appelait les grands Yankees, les gangsters du quartier. Et je viens ce jour-là, 2 semaines après sa conversion, il y avait une réunion. J'ai commis la bêtise de ma vie, permettez-moi les termes. Alors qu'on était en train de prier, j'ai dit, est-ce que les gens peuvent faire des prières individuelles? L'un après l'autre, waouh! La première personne a prié, la deuxième, et c'était lui la troisième personne. Je vais essayer de traduire ça en français. Si je suis. Quand il commence, écoutez comment il prie, oh, viens colo. Et je crois que Dieu comprenait. Lui, il était sincère. Parce que dans leur monde, là, quand tu appelles quelqu'un vieux, ça veut dire... Donc quand il dit, viens colo... Je ne sais pas comment je peux les traduire en français. Et quand il a dit la deuxième phrase, waouh, écoutez comment il a dit, viens colo, timbakarabisoba dans notre zawa. Regarde seulement nous, tes enfants réussis. Et la troisième phrase, nous tous, on s'est arrêtés d'écouter la prière. Il a dit, colo, aux affaires. Aux affaires. C'est-à-dire, tu les dépasses tous. Nous, on les blâmait, mais Dieu comprenait. Mais ce que j'aime, 6 mois après sa conversion, c'est l'engager parti. Parce que quand Dieu change, il y a un changement qui rentre totalement. Ananias a peur, mais il s'avance. Il s'avance et il certifie à Paul son appel. Tu es un instrument que Dieu a choisi. Et acte 9, 17 à 18 nous parle de la guérison de la cécité de Paul. Ananias vient lui impose les mains, les écailles tombent de ses yeux. Le processus est lancé de la formation du grand monsieur qui va prêcher. Acte 9 au verset 19 nous parle de ses premiers pas à Damas où il se met à prêcher. Acte 9 au verset 20 nous parle de ses premiers pas aussi dans l'évangélisation. Mais qu'est-ce que j'aime, acte 9, 22. La Bible nous parle de sa croissance dans les choses de Dieu. Cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus. Il s'est fortifié. La version des semeurs dit, il s'affermissait de jour en jour. L'ex-païen, l'ex-combattant qui ne voulait pas de l'Église, le voilà désormais enraciné dans les choses de Dieu. Et Dieu sait qu'un champion est en route. Un brillant champion de l'Évangile est en train d'être formé. Acte 9, verset 26 à 28, nous parle de l'instant où il veut rejoindre ceux de l'Église de Jérusalem. Et même on les refuse. L'abbé dit, ne croyez pas qu'il était un disciple. Dieu merci, j'en parlerai demain. Quelqu'un qui avait la sensibilité spirituelle appelé Barnabas, il dit, j'ai été à tel endroit, je l'ai vu prêcher franchement. Seigneur, donne-nous les dons de discernement, afin que nous ne jugions pas sur l'apparence. Sans ces dons, Paul aurait été un indépendant. Il avait essayé de les rejoindre, mais les gens n'avaient pas la révélation. Ils voulaient tout juger sur base des sentiments. Non. Paul ne s'est pas converti. Il a la stratégie des Romains. Les Romains disent, si vous n'arrivez pas à les vaincre, faites semblant de les rejoindre. C'est ce qu'il fait. Il veut venir nous détruire. Dès l'intérieur, Barnabas les conduisit. Seigneur, donne-nous des Barnabas par centaines, par dizaines et par milliers dans l'Église. Mais bizarrement, acte 9 au verset 30, la Bible nous parle encore de l'instant où Paul disparaît de nouveau. Il est à Tarse. Il retourne à Tarse. Celui que Dieu a amené presque à la lumière, qui était habitué à la lumière, rejoint l'ombre. Galates 1, 17 nous montrera même plus tard dans les processus, il ira en Arabie. Et après l'Arabie, les commentateurs nous disent, il est encore retourné à Tarse. c'est demandant Dieu m'a sauvé sous la route de Damas. Dieu m'a dit que je prêcherais devant les grands. Mais qu'est-ce que je fais ici à Tarse? J'aime le Dieu de la Bible qui programme les choses. Quelqu'un a dit, quand Dieu veut travailler par nous, il commence d'abord par travailler en nous. Et puis il travaille pour nous. Laisse Dieu travailler. Et acte 10, 25 à 26, alors que l'on a envoyé un homme de Dieu pour aller faire un travail quelque part, Barnabas, il s'appelait. Quand il arrive à Antioche, il fait un merveilleux travail, mais il se rend compte qu'il ne peut pas tout. Il laissa le travail d'Antioche et il alla jusqu'à Tarse aller chercher l'apôtre Paul. Il va le chercher. Pardonnez-moi, acte 11, 25 à 26, il va chercher Paul, et Paul vient à cet endroit où durant une année et quelques mois, les deux ont commencé à travailler. Alors que Paul s'est demandé, mais Dieu avait dit que je vais travailler pour lui. Quand est-ce que ça va commencer? Paul, tu ne sais pas que Dieu va mettre à cœur quelqu'un de venir te chercher. Et les combles, c'est finalement acte 13, verset 1 à 2, quand ils sont à Antioche. Un jour, alors qu'ils étaient en train de prier, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs. Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et les choses que Dieu lui avait dites avant entrent en motion. Et c'est la naissance du grand apôtre et du grand missionnaire. À ce moment-là, Dieu estime que le processus est arrivé à sa fin, et surtout le processus de formation. Maintenant, je vais te lancer à plein temps. Laissez-moi vous dire cette vérité avant d'aller plus loin. C'est qu'à part les récents de Jonas, cet arbre que Dieu a suscité dans Jonas, chapitre 4, verset 1, qui n'est pas passé par tous les processus de l'agronomie. À part les récents de Jonas, et à part Adam ainsi que Ève, qui sont devenus adultes sans être enfants. Nous tous, nous subissons la loi du processus. À part cet arbre suscité du coup, et qui a existé dans sa forme la plus élaborée, Adam n'a jamais été bébé, ni enfant, ni adolescent. Ève, même, Dieu les a épargnés de certains processus. Mais nous tous, nous sommes enclins à cette loi du processus. C'est pourquoi il y a quatre attitudes importantes que nous devons avoir attachées à cette loi du processus qui nous amène à accomplir le but de Dieu et à vivre une vie pleine. La première attitude n'est pas juger quelqu'un ou quelque chose par rapport à son début. N'est pas juger quelqu'un ou quelque chose par rapport à son début. J'aime les côtés enseignants de Jésus. Dans Marc au chapitre 4, verset 31 ainsi que verset 32, oulala, la plus belle illustration que Christ utilise. Et il y a des termes contradictoires. Des termes qu'ils ne savent pas mettre côte à côte. Écoutez ce que Jésus dit. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'il est semé en terre, il dit, il est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais au verset 32, il dit, mais lorsqu'il a été semé, il monte et il devient plus grand que tous les royaumes. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est grand commence d'abord par être petit. Les grandes choses sont cachées dans de petites choses. Et souvent, nous avons tendance à juger des choses par rapport à leur début. Ça a commencé petit, mais si tu lui laisses le temps, tu verras ce qu'il va devenir. Lorsqu'il a été semé, il monte. D'autres versions disent, il pousse, devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent y habiter. C'est pourquoi dans Zacharie, au chapitre 4, au verset 10, le Seigneur blâme une certaine catégorie de personnes et leur promet même la confusion à la fin. Écoutez ce qu'il dit. « Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. » Qu'il y ait des gens qui méprisent les commencements parce qu'ils sont faibles. Qu'est-ce qui va sortir de bon ici? C'est tellement petit, mais dans les petites choses se cachent des grandes. Ce qui apparemment a l'air de rien peut devenir fort à demain. Deuxième attitude que j'aimerais nous communiquer, c'est que la foi en Dieu et en ses promesses sont d'une grande importance sur les chemins du processus qui nous amène à vivre une vie pleine. La foi en Dieu et la foi en ses promesses sont d'une grande importance sur les chemins du processus. Pourquoi ? Parce qu'il nous arrive d'avoir deux regards qui nous arrêtent et nous découragent sur les chemins de notre destin. Le premier regard, c'est notre regard à nous-mêmes, où nous nous sous-estimons, nous accentuons nos faiblesses ainsi que nos manquements. Combien de fois nous sommes très durs envers nous-mêmes. Il y a certaines personnes qui ont tendance à voir les bonnes choses qu'il y a chez tout le monde, sauf chez eux. Et nous accentuons nos faiblesses. Combien de gens ne sont pas allés vers les choses pour lesquelles Dieu les avait appelés parce qu'ils ne voyaient rien. Moïse, viens, va faire ce travail. Moïse rappelle à Dieu des choses que Dieu connaît. Seigneur, je n'ai pas la langue facile. Et si tu ne laissais pas cela les dates, ni d'hier, ni de pendant que tu parles à ton serviteur. Seigneur, ça a commencé depuis longtemps. Et Dieu lui dit, qui a créé la langue? Qui rend muet? Jérémie, vas-y, je ne suis qu'un enfant. Gédéon, il appelle vaillant héros. Quelqu'un a dit, quand Dieu a appelé Gédéon, vaillant héros, Gédéon pensait que sûrement Abraham devait être derrière. Parce que moi, je ne suis pas un vaillant héros. Et ce qui est bizarre, quand Dieu lui dit « va », il ne dit pas « va avec la force que je vais te donner », il dit « va avec la force que tu as ». Dieu voit une force que lui ne voit pas. La foi en Dieu et en ses promesses. J'aime la foi simple des Pierre qui, sans avoir fait l'expérience de marcher sur le pedis, dans Matthieu 14, verset 28, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, vers les eaux ». J'aime toujours donner cette illustration de cet homme qui a influencé beaucoup d'entre nous et dont certains sont ici. Cet homme qui est auprès du Seigneur, le feu Jacques André Vernon. Il me relate ses débuts dans le ministère. Il est né au Gabon. Il a travaillé ses premières années au Gabon. Puis en 1955, il a eu une bourse pour aller étudier à Londres. Il me dit, Roland, quand je suis arrivé à Londres, j'ai toujours grandi dans les Français. Et j'arrive à Londres, je devais d'abord maîtriser l'anglais puis étudier en anglais. Il dit, la première année, après 6 mois, on a commencé à faire passer les étudiants de la première année à la chapelle pour essayer de prêcher. Il me dit, Roland, quand je voyais des amis qui prêchaient, dit, certains en prêchant, ils soulevaient la Bible et tournaient comme ça. J'ai dit, waouh, regardez les gens qui sont appelés. Il dit, un jour, 2 semaines avant, le directeur de l'Institut biblique vient lui dire, Jacques, ce mercredi, c'est toi qui vas prêcher. Il dit, waouh. Non seulement que j'étais timide, mais j'avais un problème aussi avec l'anglais. Il dit, je me suis préparé, j'ai prié, j'ai jamais oublié. Il m'a dit, Roland, je suis venu, j'ai placé mes notes à gauche et ma Bible à droite. Il dit, dès l'instant où j'ai soulevé la tête, j'aime les termes que lui-même il utilise, ma mâchoire est tombée en panne. Il dit, j'avais l'onction, j'avais les messages, mais ça ne sortait pas. Il dit, j'ai tremblé terriblement, terriblement. Le directeur de l'Institut biblique est venu les prendre et il m'a fait asseoir. Il dit, quand il m'a fait asseoir, il dit, Roland, vous ne savez pas comment l'échec peut vous faire mal. Je me suis assis là, j'ai dit, appelle les autres. Moi ici, zéro, zéro. Le directeur l'a encouragé, dit, courage. Tu pourras t'en sortir. Il dit, il fait de la psychologie, simplement pour me booster. 2 mois après, le directeur de l'Institut biblique vient lui dire, Jacques, tu vas encore prêcher. Il dit, je me suis demandé peut-être que je n'avais pas suffisamment jeûné. Il dit, j'ai ajouté le jeûne et j'ai dit, ce jour-là, je dois venir en jeûne à sec. Il dit, c'est avancé avec son jeûne à sec, il a placé encore ses noms de sa Bible. Il dit, Roland, tu ne peux pas croire. J'élève la tête, bis repetita. Wow. Il dit, ce jour-là, quand j'ai plié ma Bible et mes notes, je ne suis pas allé m'asseoir. Je suis allé directement dans ma chambre. J'ai fait mes valises. Je suis allé au bureau, j'ai dit, oh, monsieur, moi, je ne suis pas appelé.
Ceux qui sont appelés, ce sont les autres. Regarde les amis de ma génération, regarde comment ils font. Il dit, Roland, ce que j'aime, c'est que cet homme voyait en moi ce que moi-même je ne voyais pas. Donne-nous sur notre route quelqu'un qui voit en nous ce que nous ne voyons pas. Donne-nous quelqu'un qui peut nous encourager. Vous savez, le ministère de l'encouragement a disparu dans nos églises. Combien de gens tiendraient ferme s'il y avait quelqu'un qui peut lui dire, tu peux. You can make it. Tu peux y arriver. Tu as échoué aujourd'hui, mais tu n'échoueras pas toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, les champions ne sont pas nés champions. Les forts ne sont pas nés forts. J'aimerais dire à certains forts d'aujourd'hui, ne nous parlez pas simplement de vos exploits. Parlez-nous aussi de vos défaites du départ. Vous savez, quelquefois, les gens vous parlent tellement de leurs exploits que vous voyez, vous dites, nous, on est anormal. Mais si quelqu'un qui est fort aujourd'hui peut vous dire, hier, j'ai échoué, tu peux dire, ah bon, c'est que je peux y arriver. Je me souviens de mes premières prédications. Un jour, je file de prêcher, je descends. Un aîné me salue, il dit, deviens menuisier, mécanicien et tout, sauf prédicateur. Tu n'as pas l'appel. Regard sur nous-mêmes, mais aussi regard sur les autres qui ont réussi et qui nous ont précédés. On a un complexe, on s'est dit, et ils sont taillés sur mesure pour la réussite. Si en 55, il tâtonnait, la même personne, je l'ai écouté en 95. Quelle profondeur. Quand il prêchait, c'est comme si Dieu lui a donné les fuites de la Bible. À une période, il a prêché les 8 béatitudes. Pasteur Élie, 54 dimanches. Les 8 béatitudes. À un moment, il a pris la seule béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif. 8 dimanches. Et le 8e dimanche, comme il tapait, il dit, il y a beaucoup à dire dans ces versets. Mais celui qui avait échoué dès le départ, ne me juge pas par rapport à mon début. Mes débuts sont faibles, mais laisse-moi progresser. Et tu verras ce qui va sortir de moi. Troisième attitude aussi importante, c'est la foi des autres. La foi des autres. Sur la route du processus, on a besoin de la foi des autres. La foi du pasteur, la foi des aînés, la foi des responsables spirituels, la foi des mentors. Il n'y a pas mieux que l'encouragement de quelqu'un. C'est pour cela que j'aime les Quinois. Je prie qu'il y en ait beaucoup au ciel. Ils ont le ministère de l'encouragement. Quand un enfant commence à s'élever, n'arrive pas à bien marcher, on dit Tambola, Olia Soso, Tambola. Marche pour que tu manges le poulet. Tu n'y arriveras pas, mon croix. Tambola, Olia Soso. Et vous verrez le. Donne-moi quelqu'un qui m'encourage. Pas quelqu'un qui m'abaisse. Ah, moi, non, je vous vraiment. Cet enfant, c'est un handicapé pour la vie. Donne-moi quelqu'un qui m'encourage, qui croit que ce que je ne suis pas, je peux le devenir. Qui croit que ce que je n'arrive pas à faire, je le ferai. Donne-moi quelqu'un comme ça. Donne-moi quelqu'un. Donne-moi quelqu'un qui ne m'écrase pas. Donne-moi quelqu'un qui croit en moi alors que je ne crois plus. Donne-moi quelqu'un qui m'accorde une seconde chance. J'aime Luc chapitre 13, versets 8 à 9. Alors que quelqu'un veut dire, ces figuiers occupent inutilement la terre. J'aime ce que la Bible dit. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, quelqu'un veut dire, Seigneur, laisse-les encore cette année. Laisse-les encore cette année. Ne les coupe pas, laisse-les encore. Si quelqu'un m'avait laissé un peu plus de temps, il aurait vu ce qui sortirait de moi. Et j'aime, non seulement il dit, laisse-les encore. Il dit, je creuserai tout autour. Je mettrai du fumier. Non seulement je veux que tu les laisses, mais je veux participer dans les processus pour qu'ils s'améliorent. Je ne veux pas laisser la chose s'améliorer elle-même. Je serai participant. Et la dernière phrase, ça c'est ce qui me tue. Écoutez ce qu'il dit. Peut-être à l'avenir,
donnera-t-il du fruit? Il n'est pas sûr du résultat, mais il est sûr de son implication. Je n'ai aucune idée, mon implication va-t-elle produire? Je ne sais pas, mais je veux le faire peut-être. Hein? Les efforts que tu veux faire, est-ce que tu es sûr? Je ne suis pas sûr, mais laisse-la encore. Laisse-la encore. Laisse-la encore. Je bénis Dieu d'avoir été entouré par des gens qui ont cru en moi. Qui ont vu des choses que je ne voyais pas. On relate l'histoire d'un vieux chirurgien. Un vieux chirurgien qui avait la dextérité, la concision dans les gestes. Quand il faisait une opération, il fallait couper 3 mm, c'était 3 mm. À la limite, c'est comme s'il mesurait avant. Là où c'était 5 mm, c'était 5 mm. Mais il avait à ses côtés un jeune stagiaire. Pas habitué. Et en plus, manquant d'assurance. Et ces jeunes chirurgiens travaillaient à côté de ces vieux chirurgiens de 60 ans. Et chaque fois que les vieux chirurgiens lui disaient, écoute, là tu vas couper 3 mm. Lui, il avait toujours le don d'ajouter un matabissi de 5. Parce qu'il tremblait tellement. Là, 3, lui, il en faisait 8. Là, tu as fait 5, il en faisait 11. Là, tu en fais 10, il en fait 15. Chaque fois, son matabiche de 5, un jour, ils se sont retrouvés dans la salle d'opération. Le vieux chirurgien dit, je ne toucherai pas au corps aujourd'hui, tu vas tout faire. Allez, vas-y. Là-bas, tu en fais 7. Et comme lui, c'était toujours 5, 12. Tiens, yeah! C'est pas de la charcuterie. C'est un corps humain. Là, tu en fais 11, 16. Et là, un peu plus long, là, tu en fais 17 et 22. Et puis, il a vu les sangs commencer à gicler. Il s'est retourné, il dit, fais tout. Il a essayé, il a vu avec les appareils. Et puis, paf, le cœur s'est arrêté. Il s'est retourné, il dit, il est mort. Il dit, mais oui, il est mort. Et alors qu'ils allaient dans la petite salle pour s'échanger, il dit, quand je regarde le vieux chirurgien, sa dextérité, sa concision, lui, il a la vocation pour être chirurgien. Moi, là, avec mes doigts tremblants, rien de bon. Quand il s'échange, il dit au vieux chirurgien, c'était ma dernière journée en chirurgie aujourd'hui. Parce que je me rends compte que j'ai tous les atouts sauf pour être chirurgien. Mais avant que je ne démissionne, j'aimerais que toi, tu me dises, quel est ton secret? Qu'est-ce que tu fais pour avoir autant de concisions? Le vieux chirurgien l'a touché à l'épaule, il a rigolé d'abord. Il lui a posé la question, tu as déjà combien de cadavres dans ta conscience? Il lui dit, un seul. Alors il lui dit, t'en restes 9 pour avoir l'expérience que j'ai. Comme pour lui dire, moi que tu trouves fort, j'en ai tué 10 pour que je devienne celui que je suis. J'aimerais dire, les champions ne sont pas nés champions. Les forts ne sont pas nés forts. Vous appréciez le pasteur caché quand il chante, comment il fait des dénivellations avec la voix. Demandez-lui au début, il va vous dire combien il faisait de fausses notes de dièse. Combien il montait puis s'arrêtait. Mais il a fallu du temps. Donnons-nous des héros pas parfaits qui nous parlent pas seulement de leur victoire. Donnons-nous des héros qui nous parlent de leur défaite. J'aime la sincérité de la Bible. S'il n'y avait pas les évangiles et qu'on découvrait l'apôtre Pierre seulement dans les actes des apôtres, on serait complexé. On voit dans acte 1, leadership. Judas est mort, il dit, il faut les remplacer. Acte 2, les jours de la Pentecôte, ils sortent, il avait dit Pierre et les 11. Donc d'abord Pierre et puis les autres, c'est lui le leader. Il s'est mis à prêcher. Quel message? Il pointe les Juifs dans les yeux. Jésus que vous avez tué, Dieu l'a ressuscité. Et nous en sommes témoins. Acte 3, il dit, or je n'ai pas, argent je n'ai pas, mais ce que j'ai au nom de Jésus. Quel courage! Acte 4, il dit, nous ne pouvons pas ne pas témoigner de ce que nous avons vu. Acte 5, la Bible dit, même son ombre est guérissée. Si on regarde comme ça, on dit, waouh! Mais Dieu merci à les évangiles. Les évangiles nous montrent que Jésus-Christ lui a dit un jour, arrière de moi, la même personne. Les évangiles nous montrent qu'un jour, devant une femme, il a dit, cet homme-là, Jésus, moi, je ne le connais pas. C'est la même personne.
Mais le temps l'a changé. Quatrième attitude que nous devons avoir, c'est la patience. La patience. La patience vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi la patience vis-à-vis d'autres personnes. La patience est une qualité qui disparaît de plus en plus dans ce monde et même dans l'Église. Mon pasteur me disait toujours que la patience a deux jambes. La première jambe de la patience, c'est que la patience accepte un présent non plaisant. Mais elle accepte cela. Et la deuxième jambe de la patience, c'est que la patience croit que le présent qui est non plaisant peut être remplacé par un futur plaisant. Et c'est pourquoi chaque fois derrière la patience, il y a d'un côté des choses qu'on ne doit pas accepter, qu'on accepte, mais de l'autre côté, la foi a un avenir meilleur. Donne-moi quelqu'un, alors que je n'ai rien de plaisant, il croit que quelque chose de plaisant peut sortir. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 15, l'apôtre Pierre dit, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Sans la patience, vous n'aurez pas de bons résultats. Seigneur, aide-moi à être patient vis-à-vis de moi-même, mais aide-moi aussi à faire montre de patience vis-à-vis d'autres personnes. » Vous savez, la patience n'exclut pas la lassitude, la frustration. Christ a dû faire montre de patience vis-à-vis de ses disciples. On le voit un jour, alors que ses disciples n'arrivent pas à guérir un enfant, il dit, race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? On le voit encore, il entend ses disciples en train de se disputer entre eux, qui est le plus grand entre nous? On les voit encore, ceux qui ont marché avec lui depuis plus de 2 ans et demi, Jacques et Jean, ils veulent rentrer dans un bouc des Samaritains. Les Samaritains disent, vous n'entrez pas. Jacques se retourne vers son frère Jean et dit, est-ce qu'on ne peut pas demander au feu du ciel de descendre et de brûler ces gens? Jésus-Christ se retourne et dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Patience encore. Patience encore. Il réhabilite Pierre. Moi, j'aurais été Jésus, bien que je ne le serais jamais, mais je l'aurais été. Aïe, aïe, Pierre serait déclassé. Pierre, comment tu peux régner comme ça? Celui qui régnait, c'est celui qui était sur la montagne de la transfiguration. Il régnait, mais il appelle et dit, paie mes brebis. Vas-y encore. Seigneur, donnez-nous de faire cadeau de la patience. Je suis né dans une famille de 5 enfants. Une seule fille. Mon frère devait lancer quelque chose. Ma grande sœur, quand elle a commencé à grandir à l'âge de 10 ans, maman a commencé à lui laisser préparer du foufou. Mais chaque fois que maman lui donnait de préparer du foufou, les feuilles de manioc et les Thompson qui attendaient d'accompagner les foufous, on devait toujours mettre à côté un peu du sucre et du lait. Parce qu'au cas où les foufous ne réussissaient pas, pour ne pas perdre la matière première. On récupérait toujours. Et j'ai pu vous assurer, ma grande sœur, entre 10 et 14 ans, si on l'a laissé préparer 10 fois, 9 fois les pondous et les Thompson, les poissons chinchards ont chômé, et les sucres, ainsi que les laits qui n'étaient pas invités, se sont improvisés. Mais ce que j'aime, maman lui faisait toujours cadeau de la seconde chance. Marie-Jeanne, viens préparer encore. Ma grande sœur aujourd'hui, elle va vers sa 52e année. On l'appelle docteur S. Foufou. Quand elle vous prépare les foufous aujourd'hui, pasteur Eli, si tu lui dis prépare les foufous comme de chez toi, là du Katanga, maïs seulement, hein, farine de manioc exclue, elle te le fait bien. Quand tu dis simplement les manioc comme chez moi, à l'info, dans les Bas-Congo. Maïs exclu, elle te fait ça. Et quand tu as du bandounou, tu veux les deux. Elle te fait ça aussi très bien. Nous l'appelons docteur S. Foufou. Mais il n'a pas commencé comme ça. Quelqu'un lui a donné la possibilité. Donne-moi quelqu'un qui croit en moi. Donne-moi quelqu'un qui me dit, vas-y encore. Dans 1 Samuel chapitre 3 au verset 7, le jeune Samuel commence son processus dans le ministère. Mais écoutez ce que la Bible dit. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. J'aime l'adverbe qui est utilisé, pas encore. On ne dit pas qu'il ne connaissait pas, on dit qu'il ne connaissait pas encore. Quand l'Éternel l'appelle, il va ailleurs. Combien de fois nous enterrons les gens à cause de leur aujourd'hui? Alors que dans l'heure aujourd'hui, c'est cachant des mains plus fort. Laisse-les avancer dans les processus. 1 Samuel 3, verset 19 à 20. J'aime ce que le verset 19 dit. Le même qui ne connaissait pas l'Éternel l'avait dit, Samuel grandissait. Dites avec moi, grandissait. Il changeait en forme. Laisse-moi grandir. Laisse-moi les temps. Et le verset 20, le même qui ne connaissait pas l'Éternel, parce qu'il grandissait, la Bible dit, depuis Dan jusqu'à Beersheba, tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Mais j'aime encore, quand tu arrives dans 1 Samuel 9, au verset 6, Saül ainsi que son serviteur sont à la recherche des ânesses perdues. Et son serviteur lui dit, il y a dans cette ville un homme considéré. Celui qu'on appelle l'homme considéré, c'est celui qui au début du processus ne connaissait pas l'Éternel. Et il ajoute encore, non seulement un homme considéré, on ajoute tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Celui qui aujourd'hui, tout ce qu'on dit, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Au départ, il ne savait pas reconnaître la voix de l'Éternel. Laisse-moi dans les processus. Laisse-moi simplement avancer. Et tu verras ce qui va sortir de moi, des grands et des très grands. Il y a deux choses que je voudrais dire. Je vais terminer pour ce soir. Nous verrons la loi de la préparation des mains et les autres. Deux petites choses que j'aimerais dire, qui me rassure en lisant la parole de Dieu. La première des choses, c'est que même le Dieu fort et le Dieu tout-puissant a obéi à la loi du processus. Le Dieu fort, le Dieu tout-puissant a obéi à la loi du processus. Il n'a pas tout fait. Du coup, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, qui a toute la capacité. Il aurait pu dire que tout soit tout. Mais il a fait en étapes. Le Dieu tout-puissant. Et toi qui n'es même pas la moitié de tout-puissant. Tu veux être tout de suite. Tu veux avoir tout de suite. Il lui a fallu 6 jours. Qui? Le Dieu tout-puissant. Deuxième des choses qui me rassure, c'est que même le Dieu tout-puissant a commencé par des choses imparfaites. Le Dieu tout-puissant. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais bizarre au verset 2, la terre était informe et vide. Le Dieu informe et vide. Mais le Dieu qui? Tout-puissant. Et toi, tu veux que tout soit parfait au début. Dieu commence avec nous quelque part. Et il va avec nous quelque part. J'aimerais ce soir nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. J'aimerais qu'on m'aide à chanter tout à l'heure, attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je vais tout abandonner, restaurer notre amitié. Et quand je priais ce matin, je n'avais même pas pensé à cet appel. Dieu m'a dit, Roland, lance ces 2 appels. Et alors que les chants seront en train de jouer spontanément, hommes, femmes, jeunes gens, filles et garçons, venez ici, vous qui avez besoin de Dieu. Et l'homme de Dieu, mon frère, papy, mon âme, il viendra et priera avec vous et pour vous. Le premier appel que Dieu m'a mis à cœur fortement ce matin, il m'a dit, Roland, là, tu vas enseigner, il y a beaucoup de complexés. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en eux-mêmes. Beaucoup de gens qui ne croient pas en eux-mêmes à cause du regard sévère qu'ils ont, de leurs manquements, de leurs faiblesses. Mais Dieu m'a dit aussi, il y a plusieurs qui ne croient pas en eux-mêmes parce que tout autour d'eux, on ne croit pas en eux. Combien c'est dur pour un enfant d'avoir un papa qui ne croit pas en lui. D'être entouré par une mère qui ne voit que vos défauts. J'aimerais dire aux parents qui sont ici, nous n'avons aucune idée que la confiance en soi que nos enfants peuvent avoir vient de notre regard et de notre appréciation. Que des enfants qui sortent dehors, diminués, handicapés même dans les processus de la vie, parce qu'ils n'ont jamais eu quelqu'un qui leur a dit des bonnes choses qu'il y avait en eux. J'aimerais ce soir, toi à qui Dieu a parlé,
Toi complexé, complexé dans les études, complexé même physiquement. Quand tu te regardes, tu as tendance à voir que la beauté, l'élégance, les choses les meilleures, c'est dans les autres. Et ce soir, tu veux dire, pasteur, Dieu m'a parlé. Qu'il me guérisse. Il arrive que tu ne réussis pas dans tel domaine. Tu es peut-être dans le ministère, dans le chant, dans la prédication, dans l'intercession, je ne sais où. Quand tu travailles avec les autres, tu es comme inhibé quand tu vois leurs exploits. Quand tu vois combien ils font certaines choses, tu dis, j'y arriverai pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu m'a envoyé ce soir pour te dire, tu y arriveras. Dieu m'a envoyé ce soir pour te dire, tu es dans un processus, tu es de l'herbe, mais le temps va te transformer en épi. Et l'épi deviendra un grain tout formé. Le deuxième appel que Dieu m'a mis à cœur. J'ai vu une image dans mon esprit ce matin quand j'ai prié. J'ai vu comme plusieurs véhicules sur une sorte d'autoroute. Et il y avait plusieurs véhicules qui roulaient à 100 à l'heure. Mais il y avait un véhicule qui roulait quasiment à 20 ou 25 à l'heure, très doucement. Et j'ai vu le visage défait de cet homme qui était au volant. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que cela voulait dire? Dieu m'a dit, dans la salle où tu vas prêcher, il y a quelqu'un qui veut être comme les autres. Certes, il voit des progrès, mais ces progrès sont lents. Dieu m'a dit de te dire, la longueur ou même la vitesse de ton processus dépend de lui. Ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Ceux qui sont devenus, en moins de temps, Dieu peut t'aider à les devenir, mais en plus de temps. C'est Dieu qui décide. Dieu m'a dit de te crier, ne te compare pas. Alors que les cantiques jouent spontanément, les hommes, les femmes, les jeunes gens, filles et garçons qui veulent répondre à cet appel vont s'avancer en reconnaissant qu'ils sont dans un processus et que Dieu est au contrôle. Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre à cet appel? Attire-moi à toi. Ne me laisse pas.
Ne me laisse pas.
Ne me laisse pas surtout. Aide-moi à me regarder différemment. Les gens qui sont tout autour de moi ne savent pas comment je souffre. J'ai tendance à ne rien voir de bon en moi. Je vois la grandeur des autres, je vois la force des autres.
Tu es mon désir.
Et l'Esprit de Dieu me convainc même, il y a des femmes qui ne se trouvent bonnes à rien. Parce que jamais elles ne sont l'objet de l'appréciation de leur mari. J'aimerais dire à une femme, tu n'es pas seulement ce que ton mari dit. Il te renvoie l'image de quelqu'un qui ne peut rien faire. Dieu n'a pas encore dit.
Tes bras, je suis rassuré.
Est-ce qu'on peut s'élever tous, s'élever nos mains?
Montre-moi.
Ah, il y a quelqu'un qui doit encore venir. Viens, car cette soirée est une soirée de guérison.
Me